Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Tome 2. Chapitre 19. Au moment où le complot de M. Ralph Nickleby et de son ami touche au succès, la mèche est éventée par un tiers qu'ils n'avaient pas admis dans leur confidence. Dans une vieille maison, horriblement sombre et poudreuse, qui semblait être tombée en décrépitude avec son maître et avoir pris avec lui les rides et les teints jaunâtres de la vieillesse, à force de la tenir cachée à la lumière du jour, comme lui, à force de tenir son argent caché dans ses coffres, demeurait Arthur Greed. On y voyait rangé, dans un ordre monotone, le long des murs obscurs, de vieilles chaises et de vieilles tables qui n'avaient pas coûté cher de façon, aux formes massives, roides et froides comme des cœurs d'avares. On y voyait des armoires amincies par l'usage, molles et flexibles à force de s'être ouvertes et fermées sur les tiroirs qu'elles renfermaient, tremblotantes au moindre mouvement, sans doute par appréhension et par crainte des voleurs, qui se blottissaient dans des coins sombres d'où elles ne pouvaient projeter d'ombre sur le parquet et où on aurait dit qu'elles étaient allées se tapir pour se dérober au regard. Sur l'escalier, une grande pendule toute renfrognée, avec ses longues aiguilles toutes maigres et sa face affamée, son balancier monotone, dont le tic-tac parlait tout bas prudemment, sa sonnerie, dont le timbre faible et languissant, semblable à la voix cassée d'un vieillard, râlait en marquant l'heure, comme un homme qui meurt de faim sur la paille. N'ayez pas peur qu'il y eût là, auprès du feu, quelque bon canapé pour inviter au bien-être et au repos. Il y avait des fauteuils, c'est vrai, mais ils paraissaient mal à leur aise. Ils retroussaient leurs bras d'un air soupçonneux et timide, comme des gens qui se tiennent sur leur garde. Il y en avait d'autres dont les formes grêles et élancées pouvaient faire croire qu'ils s'étaient redressés de toute leur hauteur pour effaroucher, de leurs regards les plus effrayants, l'imprudent visiteur qui s'aventurait à les prendre. D'autres, encore, s'appuyaient sur leurs voisins ou s'accotaient pour se soutenir contre le mur, peut-être pour déployer avec une certaine ostentation toute leur incommodité, ayant l'air de prendre les gens à témoin qu'il ne valait pas la peine qu'on y touchât. Les bois de lit, avec leurs pieds lourds, leurs piliers carrés, ressemblaient plutôt à des tombeaux dressés pour les cauchemars de l'insomnie. Leurs rideaux moisis se ramassaient aux petits plis les uns contre les autres pour se communiquer tout bas, de proche en proche, quand ils étaient froissés par le vent, leurs craintes tremblantes sur la sécurité des objets séduisants qui pouvaient tenter les voleurs dans l'ombre des cabinets voisins, soigneusement fermée. C'était du fond de la chambre la plus triste et la plus affamée de toute cette maison, le temple de la tristesse et de la faim, qu'un beau matin se firent entendre les accents chevrotants de la voix du vieux Greed, gazouillant, d'un ton de croque-mort, la queue de quelque chansonnette oubliée. « Tari-tata, jette-moi là !» Tes vieux souliers, car je t'épouse. Toute fille en sera jalouse. » Peut-être n'en savait-il plus que ces refrains, dont il répétait encore les notes aiguës et tremblotantes, si un violent accès de toux n'était venu l'obliger à se modérer et à poursuivre, en silence, les soins dont il était en ce moment occupé. Ces soins consistaient à tirer des planches d'une garde-robe vermoulue, quantité de hardes malpropres, l'une après l'autre, à leur faire subir un examen soigneux et minutieux, en les tenant devant ses yeux contre le jour. Puis, après les avoir remises exactement dans leurs plis, il les rangeait dans l'un des tas qu'il avait fait près de lui. Il se gardait bien de jamais prendre à la fois dans l'armoire deux articles de toilette. Il ne les prenait qu'à mesure, un par un, et ne manquait pas de fermer la porte de la garde-robe et de tourner la clé à chaque visite nouvelle qu'il faisait à ses planches. « L'habit tabac !» dit Arthur Reed en inspectant un habit usé jusqu'à la corde. « Étais-je bien en couleur tabac ? Je ne me rappelle plus. » En y réfléchissant, il ne parut pas satisfait de ses souvenirs, car il replia ce vêtement, le mit de côté et le monta sur une chaise pour en prendre un autre, toujours en chantonnant « Jeunesse, amour, beauté, argent, fraîcheur et santé !» Ô l'heureuse épouse, toute fille en sera jalouse. Je ne vois pas où ils vont toujours chercher la jeunesse dans leurs chansons, dit le vieil Arthur. Ce ne peut être que pour les besoins du verre. Après ça, cette chansonnette n'est pas très fameuse. Une pauvre petite chanson de campagne qu'on m'a apprise dans mon enfance.
Tiens, mais un instant,
la jeunesse. Ce n'est peut-être pas déjà si bête. C'est la mariée qu'ils veulent dire. Mais, ma foi, oui, c'est de la mariée qu'ils veulent parler. Ma foi, c'est excellent, excellent. Sans compter que c'est vrai, c'est très vrai.
Il fut si heureux de cette découverte qu'il commença le couplet avec un redoublement d'énergie accompagné par instant d'un balancement de tête tout à fait folâtre.
« Mais reprenons nos occupations, » dit-il. « Le verre bouteille ? Oh, c'est un fameux habit que le verre bouteille, sans compter que je l'ai acheté si bon marché au fripier. Et encore, c'est qu'il y avait un vieux shilling dans la poche de côté. Quand on pense que le fripier ne s'est pas seulement aperçu qu'il y avait un shilling dedans, moi, par exemple, je ne l'ai pas manqué. Je m'en étais déjà aperçu en tapant le drap pour en examiner la qualité. L'imbécile ! Et puis, il n'est pas malchanceux, ce verre bouteille. Il m'a porté bonheur, dès le premier jour que je l'ai porté. Le vieux lord Mallowford a été trouvé brûlé dans son lit et toutes ses dettes remboursées. Décidément, je veux me marier en verre bouteille, Peg. Peg Silderscrew, je mettrai le verre bouteille.
À cet appel répété deux ou trois fois d'une voix retentissante, à la porte de la chambre, on vit bientôt paraître une petite vieille, mince, terreuse, chassieuse, boiteuse, hideuse, qui, essuyant du coin de son tablier sale sa figure ratatinée, lui demanda à voix basse, comme les sourds n'y manquent jamais.
« Est-ce que vous m'appelez ? Ou si c'est la pendule qui sonne ? J'ai l'oreille si dure à présent que je n'y connais plus rien. Cependant, quand j'entends du bruit, « je sais bien comme de raison que c'est vous qui le faites, puisque, acceptez-vous, il n'y a jamais âme qui vive dans cette maison. »«
C'est moi, Peg, moi !» dit Arthur Grid en se donnant une tape sur la poitrine, pour qu'à défaut du son, sa gouvernante pût comprendre le geste.
« Vous ? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ?»
reprit Peg.
« Je veux me marier en verre bouteille !» cria Arthur Grid.
« C'est bien trop bon pour se marier, »
répliqua Peg après avoir jeté un coup d'œil sur l'habit.
« Est-ce que vous n'avez pas quelque chose de plus mauvais que ça ?»«
Rien de convenable. »«
Comment pas convenable ? Si j'étais que de vous, je porterais mes habits de tous les jours, bravement, hein ?»«
Ils ne sont pas assez bien, Peg, » lui répondit son maître.
« Pas assez quoi ?»«
Bien !»
« Bien pourquoi ?»
répondit Peg d'un ton bourru.
« Ils seront toujours assez bien pour le vieux qui les porte. »
Arthur Grid marmotta une imprécation contre la surdité de sa gouvernante et lui cria dans l'oreille
« Ils ne sont pas assez gaillards. Je veux que tout le monde me regarde pour admirer ma tournure. »«
Regarde !» cria Peg. « Si elle est aussi jolie que vous dites, elle ne vous regardera pas beaucoup, maître, vous pouvez en être sûr. » et quant à vous faire regarder, que vous soyez jaune, rémoulade, vert bouteille, bleu de ciel ou carreau écossais, vous n'y gagnerez pas grand-chose. »
Charmée du compliment consolant qu'elle venait de lui faire, Peg Silderscrew se mit à ramasser l'habillement favorisé d'une préférence par Arthur Greed, le prit en paquet dans ses bras décharnés et resta là à faire ses grimaces, à rire d'un coin de la bouche, à cligner ses yeux humides, comme un de ces marmousets dont le sculpteur s'est amusé à sabrer la figure dans quelques bas-reliefs fantastiques.
« Ah, vous êtes d'humeur à rire aujourd'hui, à ce qu'il paraît, Peg !» lui dit son maître d'assez mauvaise grâce.
« Dame, n'y a-t-il pas de quoi ?»
reprit la petite vieille.
« Je n'irai pas toujours, et peut-être même avant peu, s'il vient quelqu'un ici pour me recommander un maître, car je suis bien aise de vous le dire. Peg Silderscrew ne se laissera pas monter sur le dos. Il y a trop d'années qu'elle dirige la maison, mais vous le savez bien. » Je n'ai pas besoin de vous le dire, cela ne m'irait pas d'abord. Non, non, ni à vous non plus. Vous n'avez qu'à essayer, vous serez bientôt ruiné, ruiné, ruiné.
Dieu, Dieu, je n'ai garde de l'essayer jamais, dit Arthur Greed effrayé, rien que d'entendre prononcer ce mot. Du diable si j'essaie, ce ne serait déjà pas si difficile de me ruiner. Il faut au contraire que nous nous redoublions de soins, d'économies. « Car nous allons avoir une bouche de plus dans la maison. Seulement, il ne faut pas que notre économie aille jusqu'à faire perdre sa bonne mine, car j'ai bien du plaisir à la voir comme cela. »«
Prenez garde. Vous pourriez bien finir par trouver que les bonnes mines coûtent cher. »
repartit Peg en remuant son index d'un air prophétique.
« Mais vous ne savez donc pas qu'elle peut gagner de l'argent par elle-même ?»
dit Arthur Greed, examinant avec attention l'effet que cette communication allait produire sur la physionomie de la vieille.
« Elle sait dessiner, peindre, confectionner toutes sortes de jolies petites choses pour orner les chaises et les fauteuils. Elle sait faire des pantoufles, Peg, des cordons de montre, des chaînes en cheveux, mille et mille petites bagatelles élégantes dont je ne serais pas même capable de vous réciter tous les noms. Et puis, elle sait jouer au piano. » Qui plus est, c'est qu'elle en a un. Elle chante comme un petit oiseau. Sa toilette et son entretien ne coûteront pas cher. Allez, Peg, ne pensez-vous pas comme moi ?
Sans doute, répliqua Peg, si vous ne vous laissez pas attraper.
Attraper ? Moi ? S'écria Arthur. Sachez bien que votre homme vieux maître, Peg, ne se laisse pas attraper comme cela par de jolis minois. Non pas, non pas. « Ni par de vieilles laiderons non plus, Madame Silderscrew, » ajouta-t-il à voix basse en manière de monologue.
« Je ne sais ce que vous dites là entre vos dents, » dit Peg, « mais je vois bien que c'est quelque chose que vous ne voulez pas que j'entende. »«
Sapristi, il faut que cette femme-là ait le diable au corps !» marmotta son bourgeois. Puis il se hâta d'ajouter bien haut, avec un regard caressant qui ne le rendait pas plus beau, « Je disais que je m'en rapportais entièrement à vous pour mes intérêts, Peg. Voilà tout. »«
Eh bien, »
répliqua Peg satisfaite,
« vous avez qu'à vous en rapporter à moi et ne plus vous inquiéter de rien. »«
Oui, va-t'en voir s'ils viennent, » pensa Arthur Greed en lui-même.
Mais s'il le pensa, il eut bien soin de ne pas seulement remuer les lèvres. La vieille s'en serait aperçue, et encore n'était-il pas bien assuré. Il avait peur qu'elle ne lût jusqu'au fond de ses pensées mêmes. Aussi lui lança-t-il encore une œillade câline en lui disant « Il y a des points à faire dans le verre bouteille. Vous prendrez pour le coudre de la soie noire première qualité. Vous en achèterez un écheveau. L'habit a besoin aussi de quelques boutons neufs et frais. Ah, une bonne idée, Peg. J'en suis sûre d'avance qu'elle vous plaira. Comme je n'ai encore rien donné à ma fiancée et que les petites filles aiment ces attentions-là, « vous frotterez un peu ce collier étincelant que j'ai là-haut pour que je lui donne le jour de ses noces. Quel bonheur de l'arrondir moi-même autour de son charmant petit cou. Mais par exemple, je lui reprendrai le lendemain. Je le mets sous clé et puis ni vu ni connu. Qui est-ce qui sera attrapé de nous deux, elle ou moi? Je vous le demande, Peg. » Ce plan ingénieux parut tout à fait du goût de Mademoiselle Silverscrew, et elle en exprima sa satisfaction par une suite de contorsions et de tortillements de cœur et de tête qui n'étaient pas pour ajouter à ses charmes naturels, et qu'elle continua jusqu'à ce qu'elle eût passé le pas de la porte. Là, sa physionomie changea en un tour de main pour prendre une expression aigre et méchante, et entre ses mâchoires de travers, elle murmura de tout son cœur des malédictions contre la future Madame Grid, tout en remontant l'escalier presque 4 à 4 et s'arrêtant à chaque marche pour reprendre sa respiration.
« La vieille sorcière !» dit Arthur Grid quand il se vit seul. « Heureusement qu'elle est sobre et sourde. Sa nourriture ne me coûte presque rien. Quant à écouter aux portes, il n'y a pas de danger, elle n'entendrait rien. C'est une femme charmante, pour ce que j'en veux faire. C'est une vieille gouvernante de maison très discrète et qui vaut son pesant de cuivre. »
Après avoir ainsi chanté les mérites de sa domestique, le vieil Arthur retourna au refrain de sa chansonnette, puis, ayant mis de côté l'habit décidément destiné à faire valoir ses formes gracieuses le jour prochain des noces, il replaça les autres avec le même soin qu'il avait mis à les prendre, dans le coin humide où il reposait en silence depuis bien des années. En entendant sonner à la porte, il se dépêcha de terminer cette opération et de fermer l'armoire. Quoiqu'il n'y eût pas besoin de se presser beaucoup, car la discrète Peg entendait rarement la sonnette et ne reconnaissait qu'il n'y avait quelqu'un à la porte que lorsque, par hasard, elle jetait un coup d'œil égaré au plafond de la cuisine et qu'elle voyait branler le battant. Cependant, quelques moments après, Peg entra en boitillant, suivie de Newman Nudge.
« Ah, monsieur Nudge !» cria Arthur Grid en se frottant les mains. « Mon bon ami, monsieur Nudge, quelle nouvelle m'apportez-vous ? »
Newman, la figure immobile et impassible, l'œil fixe, puisqu'il ne pouvait pas bouger, lui répondit en lui mettant un billet dans la main.
« Une lettre de monsieur Nickleby. Le porteur attend la réponse. »«
Ne voudriez-vous pas prendre ?»
Newman leva les yeux, tout alléché en faisant claquer ses lèvres.
« Une chaise ?» dit Arthur Grid.
« Non, » répondit Newman. « Merci. »
Arthur ouvrit la lettre d'une main tremblante, en dévora le contenu avec une avidité sans pareille, la relut plusieurs fois, toujours avec un rire étouffé. Il n'avait pas le courage de la quitter des yeux. Enfin, il la lut et relut tant de fois que Newman crut devoir lui rappeler qu'il était là à l'attendre.
« Réponse, » dit-il, « le porteur attend. »«
C'est vrai, » répliqua Arthur. « Oui, oui, ma foi, je l'avais presque oublié. »«
Je vois bien que vous l'aviez oublié, » dit Newman.
« Vous avez bien fait de m'en faire ressouvenir, monsieur Nudge. Vraiment, oui, » dit Arthur. « Je vais écrire 2 mots. Vous me voyez un peu agité, monsieur Nudge. C'est que la nouvelle est... »«
Mauvaise, »
interrompit Newman.
« Non, monsieur Nudge, je vous remercie. Bonne, bonne, au contraire !»
La meilleure nouvelle du monde! Je vais prendre une plume et de l'encre pour écrire 2 mots de réponse.
Je ne veux pas vous retenir longtemps. Je sais, monsieur Nudge, que vous êtes un vrai trésor pour votre maître et qu'il ne peut pas se passer de vous. Aussi, quand il parle de vous, c'est dans des termes qui vous étonneraient vous-même. C'est comme moi, je vous prie de croire, je n'en parle pas autrement non plus.
Oui, se dit Newman en le voyant sortir pour chercher son écritoire. Je me le rappelle bien. « Je lui donne Monsieur Nudge au diable de tout mon cœur. Voilà comment vous en parlez de Monsieur Nudge. »
Grid, en sortant, avait laissé tomber la lettre par terre. Newman, poussé par la curiosité de savoir la tournure que prenait le complot dont il avait entendu dresser le plan du fond de son armoire, commença par regarder avec soin si personne ne pouvait le voir, puis la ramassa et lut rapidement ce qui suit.
« Grid, j'ai revu Bray ce matin, et, selon votre désir, j'ai proposé de faire le mariage après-demain. Il n'y a pas d'objection de sa part. Quant à elle, elle ne tient pas à un jour plus qu'à l'autre. Nous nous y rendrons ensemble. Soyez chez moi à 7 heures du matin. Je n'ai pas besoin de vous recommander de l'exactitude. En attendant, suspendez vos visites à la fille. » Vous les avez renouvelées dans ces derniers temps plus que de raison. Vous savez bien qu'elles ne brûlent pas précisément de vous voir. Vous faisiez là une imprudence. Contenez, si vous pouvez, votre ardeur juvénile 48 heures encore, et laissez-la seule avec son père. Vous ne feriez que défaire ce qu'il fait, et ce serait dommage, car il s'en acquitte bien. Votre très humble, Ralph Nickleby.
En entendant les pas de Grid, qui revenait, Newman laissa retomber la lettre au même endroit, et pour mieux l'y fixer, donna dessus un bon coup de talon, puis il se hâta de retourner sur sa chaise, d'une seule enjambée, prenant un air aussi innocent que l'enfant qui vient de naître. Arthur Grid, après avoir regardé avec inquiétude autour de lui, vit par terre la lettre qu'il cherchait, la ramassa, s'assit sur son bureau pour écrire, regardant du coin de l'œil Newman Nudge qui regardait lui-même le mur d'en face, avec une attention si remarquable qu'Arthur en fut tout alarmé. «
Est-ce que vous voyez là quelque chose de particulier, monsieur Nudge ?» dit Arthur, essayant de suivre la direction des yeux de Newman.
Peine perdue. C'était une chose impossible et que jamais personne n'avait pu faire.
« Oh, rien, une toile d'araignée !»
répliqua Newman.
« Oh, voilà tout ?»«
Non, il y a une mouche dedans. »«
Il ne manque pas ici de toile d'araignée !» repartit Arthur.
« C'est comme chez nous, » répondit Newman. « Ni de mouche non plus pour s'y prendre. »
Newman parut enchanté de cette répartie, et pour célébrer son succès, il se mit, au grand désagrément des nerfs d'Arthur Grid, à tirer de ses doigts une foule de craquements dans les jointures, qu'on aurait pu prendre, avec un peu de bonne volonté, pour une charge de mousqueterie dans le lointain. Arthur finit pourtant par pouvoir achever sa lettre à Ralph, et la remit en main propre à l'excentrique messager de son noble ami.
« Voilà, monsieur Nudge !» dit Grid.
Newman le salua d'un signe de tête, mit la lettre dans son chapeau et s'en allait, lorsque Grid, qui, dans l'enthousiasme de son bonheur, ne connaissait plus rien, lui fit signe de revenir sur ses pas et lui dit tout bas d'une voix perçante, avec un ricanement qui lui rida toute la face au point de lui cacher presque les yeux.
« Voulez-vous prendre une petite goutte de quelque chose, seulement pour y goûter ?»
Qu'Arthur Grid eût offert à Newman de boire ensemble un petit coup d'amitié, et il en était bien capable, Newman n'aurait pas voulu à ce titre accepter de lui le vin le plus généreux. Mais ici, c'était un ladre qui proposait dans l'espérance d'être refusé. Et Newman ne fut pas fâché de lui jouer un mauvais tour en acceptant tout net, pour voir un peu ce qu'il dirait et pour le punir à sa manière. Arthur Grid, pris au piège, s'approcha donc de l'armoire. Il y avait une tablette chargée de grandes chopes flamandes et de bouteilles curieuses, les unes avec des goulots longs comme des coups de cigogne, les autres avec de gros ventres hollandais et de petits goulots apoplectiques. C'est là qu'il prit une bouteille poudreuse d'assez bonne mine, avec deux verres d'une petitesse microscopique.
« Vous n'avez jamais goûté de cela, » dit-il. « C'est de l'eau d'or. Je l'aimerais rien que pour son nom. Nom délicieux, de l'eau d'or. Dieu de Dieu, n'est-ce pas péché d'en boire ?»
Et en effet, le cœur avait l'air de lui manquer à cette pensée. Il s'amusait avec le bouchon de manière à laisser craindre que tout cela ne finit par remettre la bouteille en place sans y toucher. Newman en eut la peur. Il prit un des petits verricules et le toqua deux ou trois fois contre la bouteille, comme pour rappeler doucement à l'autre qu'il ne lui avait encore rien donné. Arthur poussa un profond soupir avant de consommer le sacrifice, le remplit lentement, non pas jusqu'au bord pourtant, puis remplit le sien à son tour.
« Un instant !» « Un instant, ne buvez pas encore !» dit-il en arrêtant la main de Newman prêt à boire. « Vous voyez bien, voilà 20 ans qu'on m'en a fait cadeau, et quand j'en prends une goutte, ce qui m'arrive très rarement, j'aime à y réfléchir auparavant pour taquiner ma soif. Voyons, porterons-nous une santé ? Oui, c'est cela, nous allons porter une santé, n'est-ce pas, monsieur Nudge ?»«
Ah !» dit Newman, impatienté du retard et surtout de l'exécuté du verre.
Dépêchons-nous, le porteur attend.
Mais je vais vous dire, nous allons boire.
À la santé d'une dame.
Des dames ? Dit Newman.
Non pas, monsieur Nudge, non pas. D'une dame. Vous êtes étonné de m'entendre dire d'une dame. Je vois bien que vous êtes étonné. Eh bien, c'est de la petite Madeleine. Voilà mon toast, monsieur Nudge. À la petite Madeleine.
À Madeleine, dit Newman, ajoutant en lui-même, par restriction mentale, que Dieu la protège.
La promptitude et l'indifférence avec laquelle Newman expédia sa ration d'eau d'or frappèrent le vieux Arthur d'une si profonde surprise qu'il ne pouvait en revenir, et restait là à regarder la bouche ouverte sans avoir la force de respirer. Newman n'eut seulement pas l'air de s'en apercevoir et le laissa savourer son nectar à son aise ou le renverser dans sa bouteille par réflexion, si cela lui convenait, et partit après avoir offensé mortellement la dignité de Peg Sildersquew en la bousculant dans le corridor, sans seulement crier gare. Monsieur Grid et sa gouvernante ne furent pas plutôt seuls qu'ils se formèrent immédiatement en petit comité exécutif pour discuter et régler tous les points de la réception qui serait faite à la jeune fiancée. Mais les comités, en général, dans leurs délibérations, sont si longs et si ennuyeux que celui-là pourrait bien ne pas être plus amusant que les autres. Nous ferons donc mieux de sortir avec Newman et de nous attacher à ses pas. Aussi bien nous aurions été toujours obligés de le faire, car la nécessité nous presse, et nécessité n'a pas de loi. Tout le monde sait cela.
Vous avez été bien longtemps, dit Ralph à Newman de retour.
C'est lui qui a été bien longtemps, répliqua Newman.
Bah ! Cria Ralph impatienté. Voyons, donnez-moi sa lettre si vous en avez une, sa réponse en tout cas, et surtout restez, j'ai deux mots à vous dire, monsieur.
Newman lui remit la lettre et prit l'air le plus vertueux et le plus innocent pendant que son patron en brisait le cachet et y jetait les yeux.
Il ne manquera pas de venir, marmotta Ralph en la déchirant en mille morceaux. Belle nouvelle, ma foi. C'est bien la peine de me dire cela. Nudge, quel était, je vous prie, monsieur, l'homme avec lequel je vous ai vu dans la rue hier au soir?
Je ne le connais pas.
Vous ferez bien de vous en rafraîchir la mémoire, monsieur, dit Ralph d'un air menaçant.
Quand je vous dis, répliqua Newman hardiment, que je ne le connais pas, il est venu ici deux fois demander après vous, vous n'y étiez pas. Il est revenu, vous l'avez mis à la porte vous-même. Il a dit s'appeler Brooker.
Je sais bien tout cela, dit Ralph. Mais après ?
Mais après ? Eh bien, il a rôdé autour de la maison, il m'a suivi dans la rue. Tous les soirs, il vient me tourmenter pour que je lui donne les moyens de se trouver avec vous face à face, comme il prétend s'y être trouvé déjà une fois. Il n'y a pas encore longtemps. Il veut, dit-il, vous voir seulement face à face. Et alors, vous ne demanderez pas mieux que de l'entendre jusqu'au bout, toujours à ce qu'il a dit.
Et que répondez-vous à cela ?
Demanda Ralph, jetant un coup d'œil perçant à son souffre-douleur.
Que cela ne me regarde pas, que je ne veux pas l'introduire chez vous, qu'il n'a qu'à vous attraper dans la rue si c'est là tout ce qu'il demande. Mais non, il ne veut pas de cela. Vous refuseriez de l'écouter, comme cela, à ce qu'il a dit. Il faut qu'il vous tienne seul dans une chambre, la porte fermée à clé, à vous parler sans crainte. Et alors il vous fera bien changer de ton et vous forcera bien à l'écouter patiemment.
L'impudent gredin, murmura Ralph entre ses dents.
Je n'en sais pas davantage, dit Newman. Et je vous répète que je ne le connais pas. Peut-être lui-même n'en sait-il pas plus là-dessus que vous, qui pourriez bien le connaître mieux que personne.
Je ne dis pas non, répliqua Ralph.
Eh bien, répliqua Newman de mauvaise humeur, ce n'est pas une raison pour me dire que je le connais, voilà tout. Vous allez peut-être aussi me demander pourquoi je vous en ai jamais parlé auparavant. Avec cela, que je serai bien reçu à vous conter tout ce qu'on dit de vous. Quand par hasard cela m'arrive, qu'est-ce que j'y gagne? Que vous m'appelez un âne, une brute, et que vous prenez feu comme un dragon volant.
Tout cela était exact. et Newman avait fait preuve d'adresse en allant au-dessus d'une question qui était en effet déjà sur les lèvres de Ralph.
« C'est un fainéant, un sacripant, » dit celui-ci. « Un vagabond qui s'est échappé de Botany Bay où il faisait un voyage pour ses crimes. Un coquin qu'on aura lâché pour qu'il allât se faire pendre ailleurs. Un filou qui a l'audace de se frotter à moi, quoiqu'il sache bien que je le connais. La première fois qu'il viendra vous ennuyer, mettez-le entre les mains de la police, comme essayant d'extorquer de l'argent par des mensonges et des menaces, entendez-vous? Et après cela, je m'en charge. Je l'enverrai se rafraîchir les talons un bon bout de temps au cachot. Et je vous réponds qu'il sortira de là, doux comme un mouton. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas?
Oui,
dit Newman. Eh bien, répondit Ralph, n'y manquez pas, je vous donnerai quelque chose. Vous pouvez vous en aller maintenant.
Newman profita de la permission et revint s'enfermer dans son petit bureau où il resta tout le jour occupé de sérieuses réflexions. Le soir, quand il fut libre, il courut à la cité reprendre son ancien poste, derrière la pompe, pour voir sortir Nicolas. Car Newman Nudge avait son amour-propre et ne se sentait pas le courage d'aller se présenter chez les frères Cheeryble, dans l'accoutrement misérable qu'il était réduit à porter, pour s'annoncer comme l'ami de leur protégé. Il n'y avait pas 5 minutes qu'il était là, quand il eut le plaisir de voir arriver Nicolas. Aussitôt, il sortit de son embuscade pour aller au-devant de lui. Nicolas, de son côté, ne fut pas moins charmé de la rencontre, car il y avait quelque temps qu'il ne l'avait pas vu. Ils se serrèrent la main avec chaleur.
« Justement, je pensais à vous à l'instant, » dit Nicolas.
« Cela se trouve bien. Vous voyez que j'en faisais autant. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir vous trouver ce soir. Je voulais vous dire que je me crois sur la voie de quelque découverte. »
« Et qu'est-ce que cela peut être ?» répliqua Nicolas en souriant à cette singulière communication.
« Je ne sais pas ce que c'est ou ce que ce n'est pas, » dit Newman. « Mais c'est un secret où votre oncle est intéressé. Malheureusement, je n'ai pas encore pu découvrir comment, quoique j'ai là-dessus des soupçons très positifs. Mais je ne veux pas vous en parler et vous donner encore connaissance, de peur que cela ne vous fasse de la peine. »«
À moi ? De la peine ?» cria Nicolas. « Est-ce que j'y suis intéressé ?»«
Je crois que oui, » répliqua Newman. Je me suis fourré dans la tête que vous devez y être intéressé. J'ai rencontré un homme qui en sait plus long qu'il ne veut en dire. Il m'a déjà lâché quelques demi-confidences qui me tourmentent. Mais bien fort,
dit Newman en se grattant le nez de manière qu'il devint pourpre de rouge qu'il était et en fixant les yeux sur Nicolas pendant ce temps-là de toute sa force. Étonné de le voir devenu tout à coup si mystérieux, Nicolas lui fit une foule de questions pour tirer de lui quelque chose, mais en vain. Il fut impossible d'obtenir de Newman le moindre éclaircissement. C'était toujours la même répétition. Combien il était inquiet et perplexe, combien il fallait de précautions, comment Ralph, ce renard aux yeux de lynx, l'avait déjà vu dans la compagnie d'un correspondant inconnu, toute la peine qu'il avait lue à le dérouter par une extrême discrétion dans ses manières et une grande habileté dans ses réponses. Heureusement qu'il était sur ses gardes et que, dès l'origine, il s'était préparé à cette lutte de finesse. Nicolas n'avait pas oublié les goûts de son compagnon et il suffisait de voir son nez pour les connaître. C'était comme un fanal placé sur sa figure pour en avertir les passants. Il l'attira donc dans une petite taverne borgne où il se mit à repasser avec lui l'origine et les progrès de leur intimité, reprenant un à un, comme cela se fait souvent, les petits incidents les plus intéressants qu'il avait signalés. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à la mystification de l'affaire Cecilia Crevice.
« À propos, dit Newman, cela me rappelle que vous ne m'avez jamais dit le vrai nom de votre dulcinée. »«
Madeleine ! » cria Nicolas.
« Madeleine ! » s'écria aussi Newman. « Quelle Madeleine ? Son autre nom ! Voyons quel est son autre nom ! » !»«
Bray !»
dit Nicolas, tout étonné de cette ardeur de question.
« C'est cela même ! » cria Newman. « Diable, ça va mal ! Comment aussi restez-vous là, à vous croiser les bras, à regarder faire ce mariage abominable, sans rien faire seulement pour essayer au moins de la sauver ?»«
Que voulez-vous dire ? » s'écria Nicolas, bondissant. « Un mariage ? Êtes-vous fou ? »
Il y en a un de nous deux qui est fou. Qui sait si ce n'est pas elle qui est folle? Mais vous êtes donc aveugle, sourd, paralysé, mort et enterré, dit Newman. Vous ne savez donc pas que dans 24 heures, grâce à votre oncle Ralph, elle va épouser un homme qui ne vaut pas mieux que lui. Pire encore si c'est possible. Vous ne savez donc pas que dans 24 heures, elle va être sacrifiée, aussi sûr que vous êtes là, vivant, devant moi. Un vieux coquin, un vrai fils du diable, qui en remontrerait à son père.
Faites attention à ce que vous dites, répliqua Nicolas. Au nom du ciel, faites-y attention. Je suis tout seul à Londres. Je n'ai pas là le secours des personnes qui pourraient lui tendre la main dans le naufrage. Ils sont partis si loin d'ici. Voyons, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je n'avais jamais entendu prononcer son nom, dit Newman suffoqué. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ? Comment pouvais-je le savoir ? Au moins, nous aurions eu le temps de nous retourner.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Cria toujours Nicolas. Il ne fut pas facile de lui arracher ce qu'il voulait dire. Pourtant, enfin, après une grande quantité de pantomimes des plus étranges qui n'éclaircissaient rien, Nicolas, qui n'était guère moins exaspéré que Newman, le mit de force sur son siège et de force l'y retint jusqu'à ce qu'il eût compté son compte.
La rage, la surprise, l'indignation, toutes les passions déchaînées entrèrent en foule dans le cœur du malheureux à mesure qu'il entendait dérouler tous les détails du complot. Et il ne les eut pas plutôt entendus jusqu'au bout qu'il partit comme un trait, pâle comme la mort et tremblant comme la feuille. Newman courut à sa poursuite, car il craignait quelque éclat.
« Arrêtez ! » criait-il. « Arrêtez ! Il va faire un mauvais coup ! Il va assassiner un homme ! Holà ! Hé ! Arrêtez ! Au voleur ! Arrêtez le voleur !»